en a proposé diverses définitions. Bossuet dit « La philosophie est la science de l'homme et de Dieu ». Cicéron la définit « La science des choses divines et humaines ». Aristote « La science des premières causes et des premiers principes ». On a dit enfin « La philosophie est la science de l'absolu ». On peut faire voir que toutes ces définitions reviennent au même. Il faut d'abord pour cela définir « absolu ». On appelle « absolu » ce qui est par soi-même, ce qui ne dépend de rien, ce qui est sans relation aucune. L'absolu serait indépendant de l'espace et du temps. Sachant cela, montrons que toutes ces définitions donnent pour objet à la philosophie l'absolu. En effet, la première cause, c'est l'être ou les êtres d'où vient toute la réalité. Le premier principe, c'est la loi la plus générale qui a présidé à ce développement. Rechercher la première cause et le premier principe, c'est rechercher le primitif, l'absolu, tant dans le monde de la connaissance que dans celui de l'existence. Or, dans le premier, quel est l'absolu? C'est l'esprit de l'homme. Dans le second, c'est Dieu. Toutes ces définitions viennent donc à celle-ci. La philosophie est la science de l'absolu. Voici maintenant à quelles objections cette définition est exposée. Elle assigne pour but à la philosophie ce qui n'en est que le dernier mot, la dernière hypothèse, nécessaire peut-être pour donner la raison de certains faits, mais qui ne saurait en tout cas être prise pour point de départ. L'absolu n'est évidemment pas ce que l'on recherche en commençant la philosophie. On n'a dès lors aucune raison de le faire figurer dans la définition de la philosophie. Il y a d'ailleurs des systèmes philosophiques importants, le positivisme par exemple, qui n'admettent pas l'existence de l'absolu. On ne saurait exclure de la philosophie des systèmes qui agitent les mêmes questions que les autres et n'en diffèrent que par la manière de les résoudre. On ne saurait donner pour objet à la philosophie une chose dont l'existence même est en question. Comment donc définir la philosophie? Quand on considère les faits dont s'occupe cette science, on voit que ce sont tous des phénomènes ayant trait à l'homme et dans l'homme, à ce qui n'a rien de physique, à ce que n'étudient en aucune façon les sciences positives. Le domaine de la philosophie est l'homme intérieur. De quoi se compose l'homme intérieur? De faits qui ne tombent point sous les sens, mais nous sont connus par une sorte de sens intime qu'on nomme conscience. La perception de ces faits modifie la conscience comme la perception matérielle modifie les sens qui lui sont soumis. Aussi désigne-t-on ces faits sous le nom d'état de conscience. La philosophie est donc la science des états de conscience. Mais cela ne suffit pas. Les faits psychologiques qu'on appelle états de conscience sont relatifs au moins par rapport au temps. Dès lors, la philosophie, par sa définition, serait enfermée dans le domaine du relatif. L'étude de l'absolu en serait exclue. La métaphysique, imposée à tort par les définitions ci-dessus étudiées, serait, à tort également, interdite par celle-ci. Il faut donc la modifier ainsi. La philosophie est la science des états de conscience et de leurs conditions. Cette définition convient à tous les systèmes. L'absolu est-il, n'est-il pas, une des conditions des états de conscience? La chose reste à étudier ultérieurement. Mais en tout cas, la définition que nous venons de donner autorise la philosophie à s'en occuper si elle juge cette hypothèse nécessaire. Leçon 2. Objet et méthode de la philosophie. Suite. Le but de la philosophie est maintenant déterminé. C'est l'étude des états de conscience et de leurs conditions. Mais comment la philosophie procédera-t-elle à cette étude? En un mot, quelle sera sa méthode? Cela reste encore à déterminer. Les différents systèmes ont fait à cette question différentes réponses. De nos jours, s'est formée une école, l'école éclectique, qui soutient que la meilleure méthode serait de concilier les différents systèmes. Cette école, qui, sans être encore organisée, avait été déjà représentée dans l'Antiquité par la Nouvelle Académie et par Cicéron, dans les temps modernes par Leibniz, qui en recommande souvent le procédé principal, cette école n'est arrivée à une organisation définitive qu'avec Victor Cousin.